Bonjour. La semaine dernière, je distinguais ce que j'appelais les contradictions, qui sont normales dans toute vie de couple comme dans toute vie familiale, et que la grâce de la charité, de l'amour et de la foi nous permet de transformer en amour plus purifié. Je les distinguais des malheurs. Et les malheurs, comme je vous le disais, eh bien, c'est ce qui vous arrive alors qu'il n'était pas nécessairement prévisible que cela pourrait vous arriver à vous. C'est les épreuves qui dépassent la question de la relation mutuelle et de son inévitable purification et ses limites inévitables. Que ce soit une maladie, que ce soit une faille chez l'un des conjoints, mais cela est vrai aussi des relations avec les enfants ou avec les parents. Je pense à ce qui peut arriver à des parents si des enfants qu'ils aiment, dont ils ont soigné l'éducation, qu'ils ont voulu réussir autant qu'ils le pouvaient, et qui semblent gâcher leur vie aux yeux des parents. Comment supporter, comment vivre avec ce malheur? Évidemment, ce qui est en jeu dans cette relation, c'est d'abord la réciprocité. Prenons le cas d'abord du couple. Il serait plus simple que je prenne des exemples, mais ça m'ennuie un peu, parce que je ne voudrais pas faire des personnalités, ou des personnalités au moins directes, ou au moins imaginaires, parce que on peut prendre toutes sortes de cas, de situations, un grave accident, une grave maladie qui défigure l'un des conjoints et le rend tout à fait dissemblable à ce qu'il était auparavant. Il peut être handicapé profondément dans son existence physique ou psychique, que sais-je encore. Et celui qui... L'autre conjoint peut se sentir comme victime d'un double malheur. Il est blessé dans le conjoint qu'il aime et qui a subi ce malheur. Et il est blessé dans son espérance du bonheur. Car les conditions du couple, du mariage, ne sont plus exactement celles qu'ils avaient envisagées avant que ce malheur n'arrive. Que se passe-t-il parfois? Bien, parfois, on voit des couples se défaire en raison de cela. Parce que la vie peut être insupportable de la part de celui qui est blessé. Imaginons, si vous voulez, quelqu'un qui brusquement se laisse saisir par le jeu, qui gâche tout l'argent, qui perd tout l'argent du foyer, toutes les ressources financières, ou bien qui sombre dans l'alcoolisme, ou la drogue, ou Dieu sait quoi encore. Imaginons donc tous ces cas. Ce qui est en jeu, c'est quand même l'acte même du mariage, ce noyau dur de l'amour, ce résidu cristallin, cette espèce de diamant qui est au cœur de l'amour, quel est-il ce diamant? C'est non seulement le sentiment que l'un et l'autre se sont donnés, ou se sont promis, ou se sont dit, ou avoués de s'aimer, mais c'est cet acte de confiance inconditionnelle par lequel ils se sont dit qu'ils comptaient l'un sur l'autre, qu'ils seraient l'un à l'autre pour toujours et quoi qu'il arrive. La formule anglo-saxonne du rituel du mariage ajoute pour le bonheur et pour le malheur, dans les circonstances heureuses ou les circonstances malheureuses de la vie. Et si le malheur qui atteint l'un change les conditions de la réciprocité, chacun est appelé à penser que ça ne changera pas la réciprocité elle-même. Elle ne sera plus la même, la réciprocité. Mais est-ce que pour autant, celui qui n'est pas atteint par ce malheur va dire « Non, je retire mes billes, je m'en vais. » Ou « Je refais ma vie autrement. » Vous voyez bien? Et je ne cite pas des cas imaginaires. Eh bien, c'est précisément là où il y a un appel de Dieu dans ces malheurs qui ne sont pas voulus par Dieu. Je veux dire que Dieu n'est pas une espèce de sadique qui combine des situations impossibles pour que les êtres humains en soient torturés. Mais tous ces malheurs font partie d'une existence humaine marquée par l'erreur, le péché, et nos sottises ou nos insuffisances ou nos erreurs d'appréciation dont nous sommes en partie responsables ou dont d'autres êtres humains sont responsables. Je veux dire, si c'est un accident, ça peut tenir à l'erreur de quelqu'un d'autre, hein, une voiture qui provoque un accident ou je ne sais quelles autres circonstances. En tout cas, le problème n'est pas celui de la responsabilité pénale ou de la cause, mais le problème est de savoir comment un homme et une femme qui sont placés dans cette situation vont pouvoir vivre le lien qui les unit de sorte qu'ils assument cette situation. Eh bien, je pense que dans une pareille circonstance, qui est plus fréquente qu'on ne pense, il y a un appel. Je dis bien un appel de qui ? De Dieu, du Christ. Un appel à faire encore un pas dans l'amour. Un pas qui va plus loin encore que ce qu'on pouvait imaginer. Un amour encore plus désintéressé, encore plus purifié, encore plus élevé dans sa générosité. Et qui, sacrifiant la satisfaction immédiate de ce que l'un et l'autre étaient en droit d'attendre, peut-être en assurant cette fidélité et en même temps cette générosité, l'un et l'autre montrent que l'amour dont ils se sont aimés au beau jour était capable d'être plus fort que les mauvais jours. Et ce faisant, il transforme ce qui est un malheur en, j'ose le dire, une sorte de bonheur, celui-là même que Jésus explique quand il prononce les béatitudes. Je vous l'ai déjà expliqué cela. Ce que je vous dis là, ne pensez pas que c'est de ma part dureté de cœur, incompréhension, manque d'expérience de la vie, ignorance de la dureté de l'existence. Ce que je vous dis là, je ne le fais que comme à la fois témoin du Christ, ministre de Jésus-Christ, le Messie souffrant, qui veut notre bien et qui en même temps nous donne la force d'aimer comme il nous aime, mais aussi comme le témoin de ce que la grâce de Dieu a fait dans tant et tant de femmes et d'hommes qui ont vécu ce que je suis en train de vous dire. Il pourrait y avoir ici à ma place bien des gens que je connais qui jamais n'oseront parler à la première personne parce qu'ils ont trop de pudeur. Mais ce que je vous dis actuellement, ce n'est pas moi qui vous le dis seulement, c'est eux qui, par ma bouche, maladroitement, vous le disent. Car ils ont fait et ils font aujourd'hui cette expérience du dépassement du malheur par la force du sacrement qui leur permet de montrer en ce monde où il y a tant de dureté, tant d'inhumanité, tant de lâcheté, tant de trahison, qu'un amour aussi fidèle, aussi constant, aussi pur, aussi désintéressé est possible, malgré les chaos des libertés défaillantes, malgré les péchés ou les lâchetés de l'un et de l'autre, malgré les impatiences, les colères, l'usure du temps, mais que cet amour est une vraie beauté de la vie qui a en lui-même sa propre récompense, car l'amour, même le plus désintéressé et le plus crucifié, comporte en lui-même sa propre joie, car cet amour, on le vit dans le Christ, avec le Christ. Et il sert non seulement à ceux qui le vivent, il sert aussi pour s'inscrire dans la rédemption des hommes, dans la rédemption du monde. C'est le sens sacramentel et spirituel du mariage. Je le répète, c'est un appel. Car ne pensez pas que ce soit une condamnation. Je veux dire par là que on peut être requis par la vie, condamné par l'existence à faire ceci ou à faire cela. On ne choisit pas le malheur, on ne choisit pas les contraintes qui parfois s'imposent à vous. Mais la liberté intérieure, la manière dont on l'assume, cela, c'est un appel auquel on peut se dérober, mais c'est un appel auquel on peut répondre, car c'est Dieu lui-même et le Christ qui nous ouvre à ce moment-là le sens de ce qui est d'un malheur devient une épreuve purificatrice de la foi, un pas plus grand de l'amour. Alors, je connais, par exemple, des couples où l'un des conjoints, je reviens au problème de l'alcoolisme, qui est un problème terrible. Des foyers ont été quasiment détruits par l'alcoolisme de l'un, ou bien par les erreurs, les sottises, les errements de l'un ou l'autre des conjoints. Parfois au détriment des enfants, au détriment de la sécurité même d'un foyer, la sécurité matérielle. Je vous assure qu'il y a des exemples que je trouve admirables de beauté, admirables par la beauté, la profondeur, la compassion avec laquelle l'autre conjoint assume l'existence blessée de celui et de celle avec qui ils sont liés. Et même pour les enfants, et surtout pour les enfants, lorsqu'ils ont pris le temps de grandir et qu'ils se rappellent ce que leurs parents ont vécu, il y a comme une lumière qui rejaillit au-delà des blessures, une espérance qui est donnée au-delà du désespoir. Oui, ce peut être une grande grâce que de transformer un malheur en épreuve vécue avec le Christ. Mais je le répète, c'est un appel. Ce n'est pas une condamnation. Et ce pourquoi il faut prier, pour si jamais vous vous trouvez dans cette situation, ou si vous connaissez des gens qui vous sont proches et que vous voulez aider, qui sont dans cette situation, il faut à notre tour prier pour que s'ouvre cette compréhension intérieure du disciple du Christ qui découvre ainsi le chemin vers le haut, la porte étroite, le chemin montant, qui est aussi celui de la vie pour eux, parce qu'il montre ainsi comment la fidélité de Dieu, qui aime l'homme malgré sa perte, peut être vécue dans la fidélité du croyant à la grâce qui lui est donnée, sa fidélité même dans la situation où il subit ainsi ce qui est non pas encore un échec, car cela, si vous le voulez, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine.